France Culture, nuit spéciale histoire, alors que se déroulent jusqu'à demain soir les rendez-vous de l'histoire de Blois. Rendez-vous qui ont pour thème cette année, rappelons-le, partir. Ce petit verbe tout simple, sans connotation dramatique a priori, sans color vite du drame ou du tragique, lorsqu'il témoigne d'une activité humaine individuelle ou collective s'inscrivant dans l'histoire. Les cartes blanches proposées aux intervenants des tables rondes en témoignaient à Blois cette année. Les diasporas, les réfugiés, partir en guerre, partir pendant la guerre, partir après la guerre, le départ comme punition de l'Antiquité jusqu'à nos jours, la retirada, l'exil des républicains espagnols, les exils de Louis XVIII à travers l'Europe, etc. Mais il y avait aussi d'autres tables rondes, moins tragiques, moins dramatiques, par exemple le tourisme comme mondialisation pacifique, ou encore l'histoire du programme Erasmus. Alors, un livre... On va employer ce terme de, un peu général, générique, de, un peu neutre, de livre pour commencer. Un livre est paru au printemps, Haleine, de Valérie Larbeau, vous me direz plus tard. Préface de Christian Giulicelli et postface de François Colcombet. François Colcombet, c'est à vous que je parlais. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, doit-on dire Valérie Larbeau ou Valérie Larbeau ? Et pourquoi ?
Il tenait à ce qu'on dise Valérie, ça s'écrivait sans accent, c'est pas Valérie Giscard d'Estaing, c'est Valérie Larbeau. Il tenait le prénom de son grand-père, les Bureaux des Étiveaux, qui était une vieille famille berrichonne. Il avait un ancêtre qui était royaliste, un grand-père qui était républicain. Et puisqu'on parle d'histoire, il a connu, le grand-père, la déportation. Donc dans les souvenirs de Larbeau, il y avait cette dimension-là. La famille avait été obligée de vivre en Suisse pendant un certain temps. Il le raconte dans un très beau récit d'Enfantine.
Mais alors, Valérie Larbeau ne serait pas très beau. Valérie, vous me conseillez de dire.
Valérie.
Bon, je vais essayer de dire Valérie Larbeau cette nuit, mais vous me reprendrez François Colcombet s'il le faut.
Oui, vous dites Larbeau.
Bon, Larbeau. Est-ce que vous me contredirez si je prétends que l'écrivain Larbeau a toute sa place dans une nuit spéciale histoire liée, rappelons-le, au rendez-vous de Blois, dont le thème cette année, je me répète, est donc le simple verbe partir. Larbeau, qui fut un grand voyageur, un Européen errant, et qui signait donc en 1927 ce livre, Haleine, A-2-L-E-N, qu'on pourrait prendre pour une déclaration d'amour au Bourbonnais, à la voiture de luxe, à l'amitié, à la conversation, au paysage du Bourbonnais, aux habitants du Bourbonnais, sauf que quand on arrive à Moulins, dans l'Allier, avant cela, il faut être parti. Et l'on part de Paris et l'on considère que le départ, c'est peut-être ce qu'il y a de plus important. La discussion d'avant départ, c'est vraiment très important. C'est là que finalement le voyage va prendre toute son importance. On va faire des tours, des détours. On va suivre une ligne brisée et sinueuse, comme dit Larbeau. Et puis on va sans doute, au cours de ce voyage, voir, regarder le paysage, puisque c'est le principe, mais en même temps l'inventer. Donc, on part, François Colcombet.
On part, oui.
Alors, l'écrivain part.
L'écrivain part. Je me suis toujours demandé pourquoi Larbeau avait écrit ce texte qui est un peu atypique dans son œuvre et qui est d'ailleurs un peu atypique dans tout ce qui se faisait à l'époque. Je vais faire le pédant, je peux. En réalité, le goût du voyage, c'est quelque chose de vieux comme le monde. Et la version française qu'on en avait dans les familles bourgeoises, Larbeau était né une petite cuillère d'or dans la bouche. Dans ces familles, on s'intéressait au voyage. Il y avait des revues. Il y avait d'abord des écrivains. Tous les écrivains romantiques avaient proposé le voyage, Nerval, Flaubert, etc. Et puis, il y avait des revues, dont une qui s'appelait Le Tour du Monde, qui est une revue absolument somptueuse, qui était la revue que lisaient les enfants, plus les romans de Jules Verne, etc. Donc, il avait été nourri de cela. Et j'ai été frappé, quand je me suis penché sur le cas de Larbeau, par le fait que ce qu'il fréquentait beaucoup, c'était des fonctionnaires, c'est-à-dire des enfants de la bourgeoisie, qui, pour voyager, étaient devenus fonctionnaires. Les uns étaient devenus officiers de marine. On retrouve Farrère, Loti, et surtout Ségalène. Et on trouve des diplomates très nombreux, Giraudoux, Morand, et surtout Saint-Jean-de-Perse et d'autres encore. C'est ce milieu-là qui est un peu le milieu dans lequel est Larbeau, lui étant un peu différent. Il est fils de famille riche. J'évoquais tout à l'heure le fait que sa famille avait connu la déportation. Donc la dimension politique du départ, il connaissait. Et il y a un très beau texte où il raconte cela. Mais ensuite, enfant riche, il a connu le voyage avec sa mère. Il est allé dans les villes d'eau. Il a fait l'Espagne, l'Espagne.
On faisait
l'Italie, les endroits où on allait, les bords de mer. Et puis sa mère, qui donc avait hérité d'une grosse fortune, le père était mort, voulait former son fils et lui a fait faire des voyages utiles, comme on faisait dans la bourgeoisie. On lui a fait faire dès le lycée un tour d'Europe qui l'a amené par la Pologne, Saint-Pétersbourg, la Russie. Ensuite, il est passé en Turquie et il est revenu par Vienne. Donc vraiment un grand tour. Il avait quelque chose comme 17 ans. Ça a pas mal marqué, ça l'a beaucoup marqué. Et ensuite, toujours dans le même esprit, sa mère l'a autorisé à faire des voyages avec des camarades de son âge ou un peu plus âgés. Et il va refaire des grands voyages un peu partout et des voyages plus coquins en Allemagne. Alors, car apparaît très vite la dimension érotique du voyage, qui n'est pas à négliger, même si c'est souvent dit de façon discrète, édulcorée, ça existe. Et enfin, Larbaud va mettre au point un type de voyage qui est très différent qu'une voile d'haleine, qui est le voyage où on séjourne, on se noie dans le pays, on apprend la langue, on vit comme les gens du pays. On se prend d'ailleurs une femme qui fait maîtresse de maison et maîtresse tout court, qui assure la chaleur, qui assure des repas normaux, qui vous apprend le jargon local. C'est ça, Larbaud, pendant des années, et c'est le fond de son œuvre. Haleine vient d'un seul coup, ce type qui est le spécialiste de tous les pays.
Plus exotique, disons, que le Bourbonnais.
Oui, oui, il parle très peu du Bourbonnais, jusqu'à ce qu'il parle d'Haleine. C'est où il est très très bon, je recommande à tout le monde, c'est contacts avec le Portugal. C'est absolument merveilleux. Le Portugal est un petit pays, c'est important, il y a un petit pays qui va le reconnaître. Il est traité comme l'ambassadeur de la France, là-bas. Il en est content. Il y a des grands banquets à son honneur. Il écrit des très beaux textes sur le Portugal. Il donne envie d'y aller. Moi, j'ai découvert Bussaco. Je ne sais pas si vous savez où est Bussaco. Un de ces endroits merveilleux de l'Europe. Grâce à Larbaud. C'est lui qui m'a donné envie d'aller voir là-bas. Et vraiment, j'en ai pas regret. Et je recommande à tout le monde de faire ça. Donc, il a joué ce rôle. Et puis, c'est l'objet de Haleine. Il s'est retourné vers son pays d'origine, qui est l'Allier, qui est le Bourbonnais. Et il a, sous couvert d'un voyage en Bourbonnais, qui est le sujet d'Haleine, en réalité proposé encore autre chose qui concerne bien plus large que le Bourbonnais. Alors, je me dispute avec les spécialistes de Larbaud qui pensent que Larbaud n'est pas un politique. Moi, je suis de ceux qui pensent, j'ai été politique dans ma vie, je suis de ceux qui pensent que ne pas faire de politique, c'est déjà en faire beaucoup. Et je pense que Larbaud, qui traînait, et son histoire personnelle, la déportation, le départ...
Très familiale, très lointaine.
Très lointaine, mais aussi...
Et un la déportation, rappelons-le, c'est d'après la Révolution.
C'est ça, mais un phénomène qu'on mesure mal pour l'histoire et qui est difficile à mesurer maintenant, c'est la guerre de 14. La guerre de 14, c'est une catastrophe physique, tout s'effondre, etc. Et c'est décrypté par tous les intellectuels conscientisés, si on peut dire, entre guillemets, comme l'aboutissement catastrophique, cataclysmique du nationalisme à la française. De Louis XIV à Verdun, il y a effectivement une suite. Petit à petit, les nations s'exacerbent, la France vend son modèle en Allemagne, en Italie, et ça aboutit à cette catastrophe. Donc Larbaud
déteste la nation.
Larbaud vit en plus très mal cela, parce qu'il va faire partie, comme ses amis diplomates, comme ses amis officiers de marine, il va faire partie d'une certaine façon des planqués pendant la guerre de 14. Lui, il est malade, etc. Il va être réformé, mais plus facilement réformé parce que sa mère est propriétaire de l'hôtel du parc à Vichy où reçoit les soldats, on le prend comme infirmier. Bref, il part pendant toute la guerre en Espagne et il traînera toujours ça comme un poids mort. Moi, je suis de la génération qui a fait la guerre d'Algérie. Ceux de mes camarades qui se sont défilés pour la guerre d'Algérie le traînent comme quelque chose de négatif, s'en explique, etc., ou n'en parle pas. Larbaud est dans ce processus. Et ceci m'a amené à prendre conscience qu'il est très vite intéressé, après la guerre, par ceux qui essayent d'autres solutions. Alors, l'un des premiers qui a fait la guerre durement, parce qu'il n'était pas officier, qu'il était homme de troupe, il était sous-officier. C'est Drieu La Rochelle qui publie Le Jeune Européen, le thème de l'Europe apparaît, et ça aboutira au fascisme. Mais il y en a un autre qui développe le thème de l'Europe, c'est Sajjad Peirce, qui est le secrétaire de Briand. Et on le sait pas assez, mais Briand l'a remarqué lors d'une réunion, va le mettre en position de force au Quai d'Orsay, et c'est Sajjad Peirce qui, de 14 pratiquement jusqu'à 40, va être la politique de la France, et une politique dans laquelle la France essaye, dans le cadre de la SDN, de la Société des Nations, d'éviter la catastrophe suivante.
Et c'est à Sajjad Peirce qu'est emprunté l'expression « haut que de souffle aux provinces », que reprend d'ailleurs un des personnages en disant « non, c'est pas haut, c'est A ». Parce qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit, à ce qu'on écrit. Je voudrais savoir, François Colcombet, en effet, on va avec ce... Alors, il faut dire que c'est un... Je l'ai nommé livre, et on va le qualifier de beau livre, ce qu'on appelle beau livre, c'est-à-dire il y a un texte formidable qui est donc Haleine, il y a un autre texte de Larbaud qui ne corrige pas du tout, mais qui explique finalement, qui donne des notes sur son propre texte. Et puis il y a donc la préface de Christian Dudicelli dont on a parlé, votre postface. Et puis il y a des textes d'érudits. Alors on dit quoi, l'arbalicien.
On peut dire l'arbalien.
L'arbalien. Bien. Et puis il y a surtout des gravures, des dessins qui étaient voulus par Larbaud. Mais ce que je voulais dire, c'est que il part de Paris. Bon, voilà, limousine, ils sont six. Quelques jeunes hommes un peu snobs,
complètement snobs,
dans une voiture de luxe qui traverse la France sans aucun mépris, mais en regardant un petit peu de haut quand même, tout en arrivant vers une province aimée, un petit peu détestée, un petit peu moquée. On y revient, il a son propre duché, il a ses propres couleurs. Enfin bon, c'est très ambigu cette relation de Larbaud avec l'Allier, avec le Bourbonnais. Mais... il a fallu quitter aussi ce Bourbonnais, c'est-à-dire pour arriver à Paris. Alors c'est quoi? C'est le principe, on monte à Paris?
Oui, Larbaud est d'abord... qu'on voit mal maintenant, c'est que la famille Larbaud avait été mal accueillie à Vichy. Larbaud est quelqu'un qui a découvert une source et qui a voulu l'exploiter, et qui d'ailleurs l'a exploité, mais contre la société, la compagnie fermière de Vichy. Donc ils ont eu du mal à s'insérer dans la société. Ils ont été richissimes. Mais on ne pardonne pas dans l'Allier la fortune. D'ailleurs, dans Haleine ou dans différents livres de Larbaud, on dit la fortune ne protège de rien, elle rend envieux, c'est tout. Donc il décrit cela, et d'autant que ils avaient été républicains, mais ce qui était pardonnable dans un pays où on est volontiers un peu républicain. Mais surtout, la mère était protestante. Donc là aussi, c'était un peu en porte-à-faux. Et ce qui fait que très vite, Larbaud a été envoyé à Paris. Il a fait des études dans une école privée de la région parisienne, où il a été très heureux. Et c'est le roman Fermina Marquez, qui est son premier roman, qui décrit le contact d'un jeune bourbonnais, bourbonichon on peut dire aussi, avec des jeunes gens de la bourgeoisie, notamment d'Amérique du Sud. Donc c'est l'ouverture sur un monde merveilleux. Ensuite, il va publier, alors, après ce passage, il va avoir des études un peu compliquées, notamment Henri IV, Louis le Grand, mais ça se passe pas très bien, et on le remet à Moulins, au lycée Banville. Alors, j'ai exhumé des documents racontant son séjour au lycée Banville, qui sont, assez classiques. La mère est une emmerdeuse, intervient à tort et travers. Lui est riche. Et il faut cacher qu'il est riche parce que ses camarades lui piquent de l'argent, etc. Et puis surtout, la mère est très inquiète parce qu'elle trouve des petits papiers dans ses poches disant qu'il faut aller voir Lily et Théo. Lily et Théo étant deux marchandes de rêves, dont Moulins était une ville spécialiste à l'époque. C'était une grande ville de caserne, etc. Donc voilà l'histoire de Moulins. Il a très mauvais souvenir de ce passage à Moulins. Ensuite, il revient à Paris. Il fait des études. Et très vite, il devient un écrivain à la mode. Donc j'ai dit Fermina Marquez. Après, c'est Barnabous.
Et Enfantine.
Et Enfantine. Mmh. Enfantine, c'est le troisième. Barnabous, c'est celui qui le lance réellement, parce qu'il y a toute une version, une partie poétique. Tous les grands poèmes sur le train en particulier sont là. Et ensuite, c'est l'homme riche. Dans les années 1911-12, on pouvait faire cela. La tristesse de l'homme riche qui n'arrive pas à trouver exactement chaussure à son pied. Et puis, Enfantine, qui est la série de récits. Et puis, la guerre de 14 arrive. Et on repart dans un nouveau cycle dans lequel Haleine va paraître.
Et vous dites d'ailleurs, François Colcombet, dans votre... préface, non, dans
post-face,
votre
post-face,
que ce livre qui laisse rêveur, une fois qu'on l'a terminé, a mieux que Bien tenu, 90 ans après sa première publication, en tout cas davantage que Beauté, mon beau souci, ou Amant, heureusement. Alors, vous critiquez, vous osez critiquer Beauté, mon beau souci.
Non, je dis pas.
Amant, heureusement.
Alors, vous savez, moi, je pense d'ailleurs qu'il vaut mieux avoir des opinions un peu tranchées plutôt que des opinions fadasses.
Non, mais vous avez raison de mettre en avant la qualité extraordinaire de ce texte, son originalité, sa modernité, si tant est que ça veut dire quelque chose.
Ce à quoi j'étais sensible, c'est que toute la série de ces beaux recueils sont très nombrilistes. Ils racontent l'histoire en général d'un jeune homme cultivé,
riche, mais avec une cuillère en argent, comme vous dites.
Voilà.
Une cuillère avec un peu d'eau pétillante.
C'est pas inintéressant, mais dans le fond, il manque quand même un peu de souffle. Alain, pour moi, c'est pas un dialogue entre cinq personnes, c'est en réalité cinq monologues intérieurs du même personnage.
Ils sont cinq ou six?
Ou six, enfin, six. Tous ces personnages discutent et c'est comme le héros qui se raconte un certain nombre de choses. Et puis, ça débouche sur des choix politiques, sur des choix, comment doit être la société, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. C'est, à mon avis, plus intéressant que le reste. Et en plus, au jour d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus utile. Après ce qu'on a connu il y a quelques mois avec le Brexit, c'est vieux déjà maintenant, mais enfin, quand j'ai fait ma postface, j'évoquais le fait que les Anglais allaient nous surprendre. Je m'en étais tenu à cette expression parce que je ne savais pas très bien vers quoi on allait. De toute façon, ça allait être surprenant, ça l'était. La lecture de Larbeau n'est pas inutile maintenant.
Larbeau, elle est très utile. Parce que, alors, Alain, ce n'est pas un guide touristique, ça, on aura compris. Mmh. Ce n'est pas un guide de voyage, ce n'est pas un roman, ce n'est pas une nouvelle sentimentale. Non. Alors, qu'est-ce?
C'est une histoire de départ. Je l'écris comme un monologue intérieur, à plusieurs voix, très, très vivant, sur des sujets à la fois futiles, poétiques, et des sujets très sérieux.
Précieux, parfois.
Précieux. Quand on lit Larbeau, on voit très bien une chose. C'est un des rares écrivains, je pourrais dire autrement. La plupart des grands poètes, quand ils se mettent à faire de la prose, sont vraiment prosaïques, plus prosaïques que d'autres. Je prends l'exemple de Nerval, qui fait des poèmes les plus extraordinaires, et sa prose, elle est pas mal, mais enfin, il y a un monde. Chez Larbeau, c'est très différent. Chez Larbeau, une grande partie de sa poésie n'est pas loin d'une prose un peu lâchée. Et une grande partie de sa prose, d'un seul coup, s'en va dans la poésie, etc. Et on retrouve ça de façon très extraordinaire dans les personnages se mettent un peu à vaticiner, à dire des choses à la limite, des choses approximatives,
etc. S'interrompent.
Voilà. C'est assez extraordinaire.
Oui, parce que ça a dû être étonnant quand même à la parution. Si l'apparition en 1927, il ne s'attendait pas à Larbeau, il n'avait pas besoin finalement de publier, enfin, d'être édité.
Ça n'a pas eu de succès. D'ailleurs, les Parisiens ont trouvé ça, enfin les Parisiens, le tout venant Parisien a trouvé ça incompréhensible, une moquerie de la province, une distraction du grand écrivain. Les provinciaux, en revanche, ont très vite fait tilt. Il y a eu une très bonne critique, tout à fait exceptionnel en province et même
dans les journaux
assez sensible pour une fois, des critiques de très bon niveau. Il y avait des gens, il y avait des bonnes plumes. Charles-Louis Philippe était décédé, mais il y avait pas mal de monde. Il y avait Jacques Chevalier qui va être le philosophe, qui va être le ministre de Pétain. Mais il y a toutes sortes de gens comme ça qui s'intéressaient à cela et qui vont donner de la chair à cette critique. Et Larbeau avait publié d'abord son livre sans gravure, sans commentaire, dans une revue Intello. Ça n'avait pas eu beaucoup de succès, que de curiosité.
C'était pas les dessins qu'il souhaitait, en tout cas.
C'était pas ça. Ensuite, quelqu'un repère le texte, c'est Malraux. Malraux est en train d'essayer de lancer une collection,
chez Gallimard,
qui s'appelle Rosalde, et lui dit « je le publie ». Larbeau accepte, donc c'est publié aux Aldes. Alors il y a des discussions, on veut des gravures, et il fait faire des gravures par un type qui s'appelle Coubine, qui est un très bon graveur, mais qui n'est jamais venu dans l'Allier. C'est très décharné, c'est mode. Larbeau déteste. Ensuite, Larbeau dit, il faut que je le fasse éditer avec un dessinateur que je choisis, et le dessinateur que je choisis s'appelle Devaux. C'est quelqu'un. Alors, Dans le livre, il y a une dimension qui me frappe, c'est que la plupart des gens qui commentent ces gravures sont des amateurs distingués qui fréquentent les belles éditions. Moi, qui suis plus populaire, je sais qu'à cette période-là, il y avait énormément de gravures, même dans les collections populaires. Vous aviez le livre de demain, dans lequel une fois par mois, dans tous, il y avait des gravures sur bois, etc. La gravure sur bois était un mode d'expression considéré comme populaire par les gens chics. C'est pour cela que Malraux n'en voulait pas, et Larbeau, qui était dans une autre logique, voulait des gravures sur bois en couleur. C'est ce que finalement lui a fait
de vous.
Et pour qu'on soit bien sûr que tout soit compris, quand on a réédité, on a donc mis des gravures de Devaux. Il a remis en plus une préface dans laquelle il décrit d'autres gravures encore.
Oui. Souvigny, Bourbon-l'Archambault, voilà. Vichy, Montluçon.
Donc, si vous voulez, il y a au moins trois suites de gravures pour ce livre. Et le point qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est qu'il est rare qu'une œuvre soit aussi consubstantielle de son iconographie. Je dis, c'est vraiment, il l'a suivi. Pour lui, ça fait partie de l'œuvre, et c'est normal de publier avec ces
images-là, ces images qui sont aussi, c'est l'impression que l'on a pendant ce départ. Ils sont partis, ça y est, les six jeunes gens dans cette grande voiture qui doit faire une vingtaine de mètres, peut-être pas 10 mètres, 15 mètres, je sais pas.
Facilement. Vous savez que c'était la mode. Il y avait des voitures avec chauffeur, avec 20 personnes. C'était à la limite du minibus.
Non, mais là, on n'a pas besoin de chauffeur. Ce serait l'entre-soi. On choisit encore une fois des tours et des détours. C'est une ligne sinueuse. Ouais. On a envie de. Qu'a-t-on envie de voir quand on est six jeunes gens comme ça, donc au milieu des années 20, et que l'on veut se rendre quelque part? C'est un personnage qui n'est pas le narrateur, n'est pas le conducteur, et qui veut présenter finalement son propre duché, parce qu'il s'est inventé Larbeau, une existence, enfin il y a une espèce de il est le duc de cette région là
c'est ça,
mais on passe par d'autres villes.
Alors, ils font des tours par Troyes, ils zigzaguent par Avallon, enfin par des endroits comme ça. Si vous voulez,
on ne critique pas quand même. C'est des gens qui aiment ces régions-là.
Voilà. Il faut prendre un peu de distance en réfléchissant quand même que les autoroutes n'existaient pas. Donc on est dans un autre monde. Quand on va faire un voyage jusqu'à Vichy, on part pour plusieurs jours. On va coucher en route, etc. Donc tant qu'à coucher en route, autant le coucher deux fois qu'une fois, si on a les moyens, c'est ce qu'ils vont faire. Et d'ailleurs, ils aiment beaucoup les restaurants, ils jettent un coup d'œil aux villes, ils sont cultivés, sans être, vous le remarquerez, Larbeau est un voyageur qui ne va pas visiter les musées. Il va visiter plutôt les bibliothèques, il va visiter les magasins.
Lire la presse locale.
Voilà, c'est cela, c'est ce type de voyage-là. C'est pas du tout le voyage formaté que l'on fait maintenant. C'est tout autre chose. Et pour une fois, il le fait avec un groupe de copains. Alors, ils ne sont qu'entre hommes. La seule femme qui apparaît, c'est une bergère qui leur envoie un baiser.
Ouais, elle envoie un seul.
Un seul, oui. Alors, ils peuvent se partager, oui. Ça va très bien. Enfin, le voyage est comme ça. Et alors, pendant ce voyage, on raconte le duché rêvé.
Le Bourbonnais, en l'occurrence.
Le duché Bourbonnais. Alors, le duché Bourbonnais, on arrive au thème politique. Le duché Bourbonnais, c'est le duché des Bourbons, qui était après la Bourgogne, le dernier grand duché, qui était une principauté autonome, pratiquement par rapport au roi de France. Les Bourbons étaient cousins des rois de France. Ils vont d'ailleurs devenir rois de France après, mais ils étaient cousins. Et ils gênaient le roi de France. Et François Ier va les bazarder. Mais entre Louis II et le connétable, je fais le pédant.
Non, vous êtes l'historien. Histoire, François Bourbon.
Pendant cette période, le duché du Bourbonnais va se développer d'une façon exemplaire pour Larbeau, alors probablement un peu rêvé, mais il va avoir une administration, la première cour des comptes, des tribunaux, des voiries en bon état, des poètes, des peintres, des légistes, etc. Donc, un modèle. Et alors Larbeau, il projette ça, on le voit très bien, sur ce qu'il a connu ou rêvé de ce qu'était l'Italie avant l'unification d'Italie, de ce qu'a été l'Allemagne avant l'unification de l'Allemagne, c'est-à-dire des séries de principautés avec chacune, comme je dis, Beyrouth avait son Wagner, etc., Recanati avait Leopardi, etc. C'est, il rêve de cela et il dit l'Europe devrait être faite d'une collection de cela, avec un empire, dit-il, non à la nation, oui à l'empire, entendu comme quelque chose qui coiffe le tout et qui permet à chacun d'être soi-même dans l'harmonie. Je reviens en arrière sur les Bourbons, c'est très fort ce qu'il dit, parce que la légitimité des princes de Bourbon était différente de la légitimité des rois de France. Les rois de France, ils prétendaient tirer leur pouvoir de l'onction religieuse, de Dieu directement, donc quelque chose d'un peu irréaliste. Les princes tiraient leur légitimité du fait qu'ils étaient reconnus par les peuples, du fait qu'ils assuraient l'harmonie, etc. Et là aussi, on voit très bien se faufiler une autre image de la légitimité politique. On est pas très loin de l'époque, la catastrophe des Bourbons. C'est l'époque de la Boétie. C'est le moment où on réfléchit à une autre légitimité royale. Les Valois, etc., réfléchissent à autre chose. Et on est à un grand tournant de l'histoire. La France est en train de se civiliser avec Henri IV, un Bourbon d'ailleurs, avec Henri IV. Et puis c'est Louis XIV qui va mettre le holà, révoquer l'édit de Nantes, recentraliser jusqu'à l'absurde, faire le corollaire, et qui est extraordinaire, le corollaire d'une nation, c'est le service militaire obligatoire, c'est la nation qui se défend elle-même. Louis XIV est le premier à utiliser massivement les paysans comme soldats, et après on va continuer. La Révolution, l'Empire, etc., c'est cela, c'est-à-dire le peuple qui combat, donc on dresse le peuple à combattre. J'ajoute, je vais jusqu'au bout, mon sujet, je peux le décliner dans ce sujet, c'est aussi l'époque avec Louis XIV où l'égalité de l'homme-femme est rompue. Un roman comme L'Astrée proposait un autre choix de société, etc. Les Précieuses, qui n'étaient pas si ridicules, proposaient autre chose, Madame de Lafayette, etc., proposaient un autre modèle. On met fin à ce modèle et à cause notamment de la nation et du service militaire, on élève les garçons en soudard. Moi, je suis assez vieux pour avoir été élevé en soudard. Au collège où j'étais, on m'apprenait que j'aurais à tuer un jour. On faisait de la préparation militaire, etc. Toutes choses qui ont conditionné très fortement l'avenir des peuples et qui aboutissent à la catastrophe de 14 et à la dernière guerre, on l'espère dernière, mais qui est également dans cette logique d'affrontement, de destruction, etc. Et Larbaud s'inscrit contre cela très fortement, et c'est en ça qu'il est très bien.
Alain se situant donc entre Verdun et Vichy, mais le Vichy de 40, pas le Vichy familial qui lui a donné cette fortune finalement. Donc partir, ça s'est préparé, il y a eu cette discussion des six amis à Paris, comme ça dans une pièce enfumée. Et puis Larbaud rêve de faire, je pense que le trajet, c'est-à-dire vraiment, c'est déjà de la littérature, c'est-à-dire qu'il rêve de créer un système automatique, un mouvement d'horlogerie, la carte, c'est-à-dire la carte, ce qu'on aime lire, une carte qu'on aime regarder comme ça avant de faire un voyage, se déroulerait sous les yeux du chauffeur en même temps que la route sous les roues de la voiture. C'est étrange, on a l'impression
de... C'est le GPS. Alors, sous forme d'une carte qui se déroule quelque part près du volant et qui permet au conducteur de savoir où il va. C'est ce qu'il invente. Alors moi, si vous voulez, cet aspect qui est assez amusant de l'arrivée de technologies nouvelles, la voiture. Larbaud a été d'abord partisan du train, qui est un mode de locomotion collective. La liberté d'aller et de venir s'exprime dans un mode de locomotion collective, sauf pour les très riches, ce qui est très vite le cas. Et la voiture pousse à un éclatement de la société. Chacun a sa voiture, chacun va comme il veut, etc. Et on peut pousser jusqu'à l'absurde. Heureusement qu'il y a l'avion qui arrive. J'ai exploré tous ces thèmes à l'époque dans Morand, dans...
Oui, il y a eu des suites littéraires, en somme. Il y avait,
Le monde était très sensible à ça. Mais je pense que c'est finalement... Lui, il s'en rend compte, mais c'est un peu ce qui est... ce qui date un petit peu, maintenant, par rapport à son époque. C'est amusant.
Oui, c'est un peu... Il y a une espèce d'éloge de la vitesse. Lui-même, il écrit un éloge de la lenteur.
De la lenteur,
plus tard,
c'est ça. Alors, avec Morand, ils vont faire concours de snobisme. J'ai trouvé, d'ailleurs, un texte tout à fait extraordinaire. Donc on fait l'éloge de la vitesse et Morand fait lui aussi l'éloge de la super vitesse. Et puis dans un de ses romans contemporains qui s'appelle Lewis et Irène, qui est d'ailleurs cité dans dans Allen, il décrit un voyage en avion, ce qui est une nouveauté. 1920 en avion, on va, voilà. Et alors en avion, le héros, pour passer le temps, lit l'auteur à la mode qui est Freud. Il lit les trois essais sur la sexualité et il dit, il n'y comprend rien. Mais voilà qui recule singulièrement les bornes de la décence, quelque chose comme ça. Je me dis, si Morand, qui était vraiment très à la mode, parle de à cette époque de Freud, Larbeau a dû en parler. Je cherche, mais alors vraiment, je feuillette la documentation, je tombe sur un texte exactement contemporain où Larbeau fait son numéro aussi sur Freud. Il publie un texte dans une revue hollandaise, en français. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il fait une citation de Freud disant que les jeunes garçons aiment le train et la voiture parce qu'il y a un mouvement répétitif qui leur rappelle leur sexualité. Je caricature à peine. Et Larbeau se met à vaticiner sur le sujet.
Apollinaire, il y a aussi des vers d'Apollinaire sur le sujet.
Je dis, c'est assez extraordinaire de voir sur le thème de la vitesse tout ce qu'on a pu dire à l'époque. Et j'avais travaillé il y a quelques années sur la drogue. J'ai été président de la MILT, la mission interministérielle de lutte contre la toxicomanie. Je m'étais intéressé un peu au discours sur la drogue à l'époque et j'avais trouvé des textes disant que la vitesse était bien pire que la drogue. Il y a des textes américains de l'époque qui décrivent ça. Donc c'est dire que le thème de la vitesse a été un thème fort, très fort. À cette époque, moi, je l'ai connu quand j'étais gamin, et puis maintenant, c'est autre chose.
Enfin, le thème des rendez-vous de Blois, c'est partir, c'est pas voyager. Voilà. Voyager nous entraînerait vers la drogue. Voilà. François Colcombe, on n'a pas dit finalement ce titre Haleine. Alors, j'ai dit que on a compris que c'était un dialogue, des monologues, un voyage, mais quelque chose de brillant, parce que l'auteur est toujours derrière nous, parce que les personnes s'interrompent et qu'on apprend des tas de choses. Enfin, c'est très, très, très intelligent, très cultivé, très brillant. Donc, mais Haleine, ça veut pas dire allié.
Non, du tout. Alors, le mot allié, l'histoire raconte que Louis II de Bourbon, qui était un héros positif de l'histoire française, a été un jeune prince qui a été envoyé comme otage à la place du roi de France qui avait été capturé pendant la guerre de Cent Ans. Il est resté une dizaine d'années en Angleterre. Il devait avoir 27-28 ans. Il était encore tout jeune quand il est revenu. Et pour fédérer ses troupes, récupérer son duché, dont des châteaux avaient été occupés, il a créé un ordre. Il a créé même deux ordres. Le premier qui est l'ordre Espérance, et le deuxième qui est l'ordre de l'écu d'or. Et il a donné comme devise le mot « haleine ». Et il a dit « haleine » veut dire « allons tous ensemble ». À partir de cette phrase, les gens se sont mis à arriver et il n'y a aucune raison qu'on ne fasse pas la même chose, car j'ai rajouté un petit peu de confusion au sujet. Alors, il y a d'abord des gens qui se sont demandé « qu'est-ce que voulait dire « haleine ? » Est-ce que ça veut dire « allons » ou « tous ensemble » en gros. Alors, le premier écrivain du XVIIIe siècle, qui est quelqu'un originaire du Forez et de Lyon, ça a une importance, dit « haleine », c'est le mot « allons » en gaga forésien, c'est-à-dire en patois de franco-provençal, la région de Lyon.
Le forésien, c'est pas le bourbonnais, si.
Oui, mais le bourbonnais
c'est proche, mais...
Oui, mais le bourbonnais est assez extraordinaire. C'est un pays qui s'est fait à la limite de la langue d'oc et de la langue d'oil. La frontière passe très, très exactement au milieu et elle se connaît encore à 5 kilomètres près. Mmh.
On est plus chez Jules Romain, là, quand même.
J'ai été élu de langue d'oil. Je disais souvent à Clermont-Ferrand, je suis le seul élu de langue d'oil de toute la région Auvergne. Tout le reste étant de langue d'oc. Et la partie qui est à l'est étant influencée par ce qu'on appelle le franco-provençal, qui est la langue de Lyon, disons, qui va jusqu'à la frontière suisse. Bref. Donc, quelqu'un dit, ça veut dire allons. Alain. Au XIXe siècle, sous l'anglomanie vient, on dit pas du tout. Haleine, c'est un mot d'origine allemande ou anglaise qui veut dire tous ensemble. Et alors évidemment, il y a un mot haleine en allemand, mais c'est difficile de dire qu'un prince français revenant d'Angleterre va utiliser un mot allemand, donc il faut une autre explication. Donc on dit c'est all one. Mais pour arriver à dire haleine avec all one, il faut prononcer déjà le début à la française. All, oui, non pas all. Donc, bon. Moi, ça ne me satisfait pas. Ça n'a pas satisfait Larbeau non plus, qui dit « Je garde ce titre, haleine, parce que ça veut dire quelque chose pour tous les Anglo, pour tous les Américains, etc. Ça leur dit quelque chose. Mais en français, prononcé à la française, ça a encore du punch. Pourquoi à la française, ça veut dire c'est allant. Comme Rouen, comme An, comme Rang, etc. C'est allant. Mais moi, je dis, dans le Bourbonnais, on parle autant Languedoc que Languedoy. Ça peut aussi être un, comme Agen, etc. Pour des noms de ville. Donc, j'ai fait des recherches qui m'ont d'ailleurs ouvert des choses extraordinaires. Et j'évoquais Ségalène tout à l'heure. Ségalène, au XIXe siècle, son nom se prononçait Ségalin. Ségalin sous l'influence du français qui faisait que même les mots d'origine celtique, on les prononçait à la française. Puis après, c'est l'inverse. On se met à prononcer à l'anglaise tous les mots. Donc on prononce Allen à l'anglaise, mais on peut très bien dire qu'il veut dire allons et non pas tous ensemble.
Voilà. Je citais tout à l'heure Jules Romain, François Colcombet, parce que là aussi il y a des personnages qui, des jeunes gens qui voyagent et qui veulent réveiller les villes endormies.
Les villes qui s'endorment, oui. Ben oui, c'est un petit peu plus au sud.
Oui.
C'est l'Auvergne.
Un petit peu plus à l'est et au sud. Enfin, c'est vraiment.
Oui, bien sûr.
Aujourd'hui, on peut passer en voiture on peut traverser en 2 heures toute cette région, quoi, ça.
Oui.
On a tort. Ah, faut le faire en 3 jours.
En voiture, oui. Surtout sur les autoroutes qui sont complètement hors sol, si je puis dire. C'est très différent du train. Moi, je me souviens de longs voyages en train à travers le Massif central où vous remarquez les usages sont pas les mêmes. Hein. Des endroits, on s'embrasse une seule fois, des endroits 2 fois, des endroits 3 fois. Et vous voyez de mystérieuses frontières qui correspondent à des divisions de la France entière, ancienne.
Et dans ces villes endormies, on a envie de crébillonner les gens.
Alors oui, le mot crébillon, c'est un joli mot qui vient de Nantes.
C'est Larbeau qui l'a inventé ou c'est
non, il le crois qu'il le reprend de quelqu'un, voilà, mais il dit c'est merveilleux d'avoir inventé un mot comme ça. Ça veut dire avoir de l'esprit, ça veut dire avoir du mouvement. Et le mot est, je crois, toujours utilisé.
C'est géographique, quoi. Ça vient d'une place.
La rue Crébillon.
Oui. Voilà. Vous nous l'avez dit tout à l'heure, François Colcombet, il y a eu d'autres auteurs, d'autres écrivains à la même époque qui ont finalement, après la parution d'Haleine de Valérie Larbeau, et que l'on peut relire donc aujourd'hui ou découvrir grâce aux éditions Bleu Autour, qui ont écrit c'est devenu une espèce de petite mode. Il y a, je vois, Le Rhône en hydroglisseur, Paul Morand, Mon Souris. C'est quoi ça, Louise Hervieux?
Oui, alors ce que j'ai essayé de regarder, c'est d'essayer de voir si le style de Larbeau qui a frappé au moins les gens qui aimaient l'écriture, visiblement, même si ils n'ont pas dit grand-chose dans les critiques, les journalistes d'ailleurs n'étant pas les mêmes, c'est un autre monde. Je me suis demandé si ça changeait. En particulier, il y a une collection...
Portrait de la France.
Voilà, qui était une belle collection, enfin très soignée, mais comme je dis, avant, c'était des académiciens essentiellement, et c'était un peu, c'était des monographies sur le duc Intel, la princesse machin, les maisons de parlementaires, etc. Et puis, on voit d'un seul coup que à l'apparition du livre, le ton change. Alors, j'ai regardé ce qui est paru tout de suite après. Il y a Mon Souris de Madame Hervieux, qui est un truc tout à fait extraordinaire, peu connu. Mais il y a surtout un bouquin de Halévy. Halévy a été un proche de
Proust.
De Proust, et puis également de Morand, de Larbeau. De Larbeau, qui lui aussi est influencé. Il y a des phrases entières, on dirait du Larbeau, qui faufile là-dedans sur les paysages
parisiens.
Voilà. C'est très bien.
Pays parisien.
Et alors lui, c'est le paradoxe. Il redécrit un voyage dans Paris où sa famille descend du nord pour venir habiter dans l'île Saint-Louis où elle est toujours. Donc il y a ça. Et puis alors après, tout de suite après, Morand publie Le Rhône en hydroglisseur, qui alors vraiment sur la vitesse, on peut pas faire pire. C'est d'ailleurs un texte époustouflant qui décrit la remontée du Rhône. Sur un hydroglisseur avec un arrêt sur une île, on tire sur du gibier d'eau. Enfin, c'est du très bon Morand. Et puis alors, ce qui m'a surtout frappé, c'est que j'ai vu des auteurs comme Giraudoux retrouver ce ton quelques années après. Il y a notamment un livre qui s'appelle Portugal, dans lequel il suit un itinéraire presque larbaldien, et c'est une histoire assez où le personnel se mêle à la description. C'est un peu le thème, un des thèmes de Larbeau.
Enfin, vous dites aussi que Giraudoux, lui, il parle de Bovary, de Saint...
Ah non, c'est autre chose. Là, c'est, je disais du mal de...
Oui, qui ennuie autant qu'elle s'ennuie, c'est Bovary. Oui, oui. Ce qui n'est pas du tout le cas de...
C'est pas ce même Giraudoux. Giraudoux est un auteur qu'on connaît, qui a été très prolifique, qui a été un très bon auteur de théâtre, qui est un auteur interminable quand il fait des romans, qui est un conférencier, je ne sais pas si vous connaissez la France, les Françaises et la France, qui est un truc extraordinaire sur les femmes dans l'entre-deux-guerres. Et il écrit un livre qui s'appelle Portugal, et il raconte qu'il est à la poursuite de son fils. Lui, il est dans les derniers gouvernements de la République avant Vichy, et son fils vient de s'engager chez De Gaulle. Il le poursuit jusqu'au Portugal. Et le dernier texte qui à mon avis est pile poil copié sur Larbeau, c'est un texte de Paulhan, qui décrit un voyage de plusieurs personnes dont on ne dit pas les noms. C'est exactement
en
la
Suisse.
Même chose. En Suisse.
Mais bien après la guerre,
47. Bien après la guerre, mais c'est, on retrouve la liberté de ton, le mélange d'impressions personnelles et de considérations plus générales et politiques. C'est vraiment, Larbeau a créé un style, à mon avis.
Mais il faut lire Haleine, vraiment, voilà, je crois, avant de lire les autres. Peut-être peut-on se passer des autres ou de ceux qui l'ont un peu imité. Alors, dans le texte, donc, Haleine, publié chez Bleu Autour, il y a donc la préface de Christian Giudicelli, votre postface, François Colcombe. On va dire aussi que c'est sous la direction de Marie-Paul Claire Jabinet, avec des textes de Didier Arrachard, Olivier Belin, Emmanuel Polo du Lian, Fabienne Pouradier-Duteil et Sylvain Vénère. Il faut citer tout le monde parce que vraiment, quand on lit le texte, on lit Haleine et puis on lit les notes qui suivent, mais Espérance... Mais après, on y revient tout le temps. Vous dites qu'on sort un petit peu rêveur de la première lecture de ce texte, mais on le relit très vite.
Oui, 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 c'est tout à fait ça. Et alors, l'éditeur, qui est Patrice Rötting, là, qui a créé cette, depuis toutes des années...
Bleu Autour, cette Bleu très belle Autour, maison d'édition.
Avec une spécialité de traduction de romans turcs, ouzbeks, etc. Ce qui est dans l'allié, c'est tout à fait extraordinaire. Il est très larbadien, alors, pour le coup. Il joue un jeu très sympathique, c'est que d'ailleurs qu'il choisit les collaborateurs, et il leur laisse une marge, et même il aime un peu que les gens s'opposent, c'est-à-dire que les visions soient complémentaires, ce qui fait que c'est quelque chose qui permet à chacun d'avoir une porte d'entrée, disons dans cet auteur un peu difficile. J'ai travaillé un truc qu'il a fait sur Alévi, visite aux paysans du centre, qui avait été présenté à Blois, je me souviens. Qui était également la même démarche. On avait des approches différentes. Le sujet était très politique, alors pour le coup, c'était tout à fait passionnant à faire.
Alors, grâce à ce texte Haleine de Valérie Larbeau, publié donc chez Bleu Autour, eh bien, on est vraiment dans François Colcombe, et merci d'être venu nous en parler. On est vraiment dans cette thématique de partir pour raconter, pour dire que l'on a détesté finalement ce pays. Longtemps, on l'a détesté, on l'appelait l'exil, la réclusion, la Thébaïde, c'est le nom aussi de la villa de Larbeau. Mais en fait, on comprend très bien que c'est un amour qui est de la France, qui est très beau.
Enfin, oui.
Des paysages, des gens, des...
Oui. Oui, oui, oui.
Ça n'empêche pas de se moquer de tout le monde. Enfin de...
Non. Je pense que Larbeau n'aimait pas Vichy, mais il aimait le Bourbonnais à condition de pouvoir en partir. Et ce qui est assez extraordinaire, il est un peu comme on est maintenant. C'est-à-dire que dans la mesure où on peut bouger, on a envie de bouger, on s'aperçoit qu'il y en a un bon usage du mouvement. C'est d'ailleurs assez extraordinaire, les périodes de paix, nous ouvre le monde entier, et j'aimerais remarquer qu'en passant, beaucoup de gens regrettent d'un seul coup que la Méditerranée soit devenue un endroit infréquentable. Souvenez-vous, il y a 4 ou 5 ans, tout le monde allait en Turquie, tout le monde allait en Égypte, tout le monde allait en Syrie. D'un seul coup, tous ces pays fermés, c'est quelque chose de très très pénible. Larbeau exprime assez bien cela. Il faut faire que le monde soit ouvert, il faut que les gens se rencontrent, il faut qu'ils se comprennent, il faut qu'ils parlent. Je pense que Larbeau aurait été très très partisan des programmes Erasmus, c'est-à-dire de l'apprentissage de la langue et de la culture des autres, du fait qu'on fait circuler les gens, etc. C'est indispensable. Et ça, moi, mon avis, c'est un objectif politique. Le présent en dépend et l'avenir encore plus.
Merci François Colcombe. Thank you. suite du programme de cette nuit spéciale histoire proposée à l'occasion des rendez-vous de Blois, dont le thème cette année, rappelons-le, est le simple mot « partir ». Dans un instant, une fiction, le nouveau procès de Ravaillac. Nous rencontrerons ensuite Marie Desplechin qui vient de publier « Sotique » à l'école des loisirs. Alors « Sotique », c'est un récit, c'est l'histoire d'un jeune garçon, un Cambodgien, lors de la prise du pouvoir par les Khmers Rouges. Et les abominations qui s'en suivent. Une histoire vraie, puisque coécrite avec le véritable Sotique, Sotique Hoc, qui a survécu et qui vit toujours au Cambodge. Partir si l'on peut, rester et survivre. Après cette rencontre, nous terminerons la nuit spéciale histoire par une note beaucoup moins tragique, grâce à l'écoute d'un autre volet de Radio Pastiche, le podium de l'histoire. Et non, bien entendu, la tribune de l'histoire. Jacques Provin et Michel Méry, en décembre 1957, sur la chaîne parisienne, s'amusaient à revisiter la révolution de 1789. Toutes ces émissions, comme toutes les autres, sont à réécouter en ligne ou à télécharger sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».